Le premier texte ce soir nous a rappelé un rite qui appelle la protection du Créateur. Ce rite pastoral qui offrait le premier du troupeau, que ce soit le premier agneau ou bien celui qui guidait le troupeau, le bouc qu'on envoyait dans le désert se perdre, chargé des péchés, expié les péchés de l'humanité. Notre foi l'a porté dans le Christ à sa perfection. Et l'Évangile réoriente donc le bélier, figure royale, chef du troupeau, vers cet agneau fragile dont on ignore l'avenir, mais qui retient toute notre attention puisqu'il est porteur de vie. Et voici que cet agneau, saint Paul, tout de suite à Corinthe, rappelle qu'il est objet de contradiction. S'il rappelle l'institution de l'Eucharistie, c'est parce que, encore dans l'humanité, encore parmi les croyants, certains sont attachés au texte, à la ritualité de l'Ancien Testament, et il se fait déjà jour des divisions dans l'Église. L'Évangile que nous venons d'entendre, s'il n'évoque pas l'institution de l'Eucharistie, évoque bien ce pain de vie venu du ciel, du chapitre 6. C'est le ciel qui descend jusqu'à nous, parce que dans l'Eucharistie, le Christ, Dieu éternel, descend jusqu'en humanité pour apporter à l'humanité sa perfection. Nous sommes devant cet acte inouï qui révèle Dieu, ce Dieu devenu serviteur. Tout le monde, à l'époque, sait bien ce que c'est qu'un serviteur, en particulier celui qui accueille l'hôte de passage et nettoie ses pieds. Jésus devient celui qui accueille. Avons-nous pensé un seul instant à ce geste Jésus qui se met à genoux devant les 12? Il les connaît très bien, il les connaît par cœur, par le cœur. Ce qui compte à cet instant, c'est que le Christ va au cœur, au creux de chacun, là où il sait les capacités de péché, les fautes. C'est là où nous-mêmes, nous mourons à notre liberté, nous laissant attraper par le malin. Eh bien, Jésus va au plus profond de ce creux, de cet abîme, et il va cueillir notre espérance. Il attend de ses apôtres, des successeurs des apôtres, qu'ils soient les révélateurs de cette espérance épanouie dans le Verbe de Dieu. Ils deviennent porteurs d'une parole plus grande qu'eux-mêmes, plus grande que nous. Cette parole confiée aux prêtres, aux diacres, révèle Dieu, et c'est servir la table de la parole, la table de la loi. Cette loi n'est plus celle de commandement extérieur, mais c'est la loi de l'amour qui s'est abaissée jusqu'à nous, nous lavant de nos souillures, lavant nos pieds, considérant les personnes et pas seulement des gens. Ils sont capables de faiblesse, ils deviennent, par le ministère, porteurs du Verbe, ayant fait cette expérience de la mort à eux-mêmes, puisqu'ils se sont remis à Dieu, cette expérience crucifiante aussi de leur impuissance, de leur péché. Et chacun des ministres vit la Pâque quand il accepte l'évocation du Christ serviteur. Le lavement de pieds vient pour ceux qui encore ignorent que le Verbe nous a visités, que le Verbe nous a sauvés. Cette parole se fait mot au cours de l'Eucharistie. Cette parole, qui attend d'être reçue, devient nourriture. Elle est mangée, et dans le Christ, elle est vie. Ce qui compte à ce moment-là, ce n'est plus un homme dans l'histoire, mais le Seigneur qui vient faire de nous son corps, ses disciples. Il ne nous fixe pas les yeux dans les yeux, parce que nous ne pourrions supporter son regard. Il s'est mis à nos pieds, si abîmés, et à nos pieds, humblement. Il nous rend nos racines. Il nous dit d'où nous venons. Lorsque nous regardons, peut-être un peu trop souvent, le décalogue, nous oublions son préambule. Je t'ai libéré. Dieu fait de nous des hommes libres et nous invite à nous comporter en hommes libres. Alors ne croyons pas remplacer notre liberté parce que nous aurions respecté tel petit commandement. Trop souvent, nous remplaçons un problème par un autre. Nous demandons au législateur de toujours ajouter des interdictions. Nous restreignons nos propres libertés parce que nous avons peur de cette liberté, du oui que Dieu sollicite en nous. Il m'est arrivé souvent de rappeler combien j'aimais l'épilogue de la règle de Saint-Benoît qui confie au Père Abbé le soin de dire à chacun, au-delà de la règle, ce qui va le faire grandir. Et bien, j'aime encore plus la finale du droit canon. Sur les 1700 articles, le dernier dit ceci. Dans l'Église, le salut des âmes est le bien suprême de la loi. Pour nous, frères et sœurs, le bien suprême, c'est de savoir que nous sommes sauvés. Le Christ nous regarde au-delà de la loi avec ce regard si doux qu'il ne vient pas accuser nos consciences, avec ce regard si inquiet de notre réponse qu'il n'attend pas que nous soyons parfaits pour cueillir notre espérance et l'accomplir. Il nous donne des ailes pour nous porter vers nos frères et devenir serviteurs. Il est vrai que dans l'histoire du sacerdoce, souvent le peuple a reconnu ses limites, il a vu son péché. Nous ne nous étonnons pas qu'à notre époque, on nous dénonce comme étant imparfaits, et que l'actualité, peut-être en ce moment, vient rappeler combien des ministres, eux aussi, ne sont pas à la hauteur. Peut-être serait-il intéressant de voir comment nous soutenons les victimes et pas seulement comment nous accusons les coupables. Peut-être serait-il intéressant de voir comment le Christ, ne se faisant pas d'illusions sur notre faiblesse humaine, est venu et il vient encore apporter sur nous cette touche finale, ce sceau sacramentel, sa présence. Nous sommes des vases d'argile, si fragiles, mais le Seigneur ne vient pas en nous en puissance, il risquerait alors de nous briser. Il vient en nous comme un vol de colombe, et il révèle dans nos fragilités toute la richesse de sa tendresse, de son amour. Saint François disait combien il respectait les prêtres. Dans le mystère du Christ, il se disait prêt à recourir aux prêtres, même si ceux-ci l'avaient persécuté, sans tenir compte de leurs péchés, parce que le Fils du Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant en amour, en pardon, en miséricorde, ne voit rien d'autre en leur enveloppe corporelle que ce désir de donner son corps saint et, par eux, de consacrer les hommes en son corps, en son sang. Il ne peut le faire qu'en administrant les sacrements. Aussi, frères et sœurs, demandons aujourd'hui que ce sacerdoce, qui n'est pas seulement de pure forme, mais qui est configuration au Christ, puisse être encore honoré par de jeunes hommes qui se poseraient la question. Puissions-nous encourager leur désir et leur liberté de service, sans rien cacher de la difficulté aujourd'hui d'offrir généreusement sa vie, de se consacrer dans le célibat au service de ses frères, mais aussi en leur disant cette joie profonde de vivre ensemble en corps du Christ. Dans nos rapports d'humanité, sachons que nous venons du Père et non pas de nous-mêmes, que nous ne nous donnons pas à nous-mêmes, mais que nous nous recevons dans l'Alliance. Jésus est la figure de cette Alliance accomplie. Il l'a accomplie en s'offrant à son Père. Sur le Golgotha, Jésus a fait de sa vie cette offrande d'une valeur éternelle, cette offrande rédemptrice, qui couvre chacune de nos existences et nous met en pleine communion avec Dieu. Entrons dans cette communion. Ne laissons plus le péché nous enfermer. Et puisque toute offrande est accomplie en Jésus-Christ, eh bien que chaque prêtre soit victime, hostie, marquant ainsi l'aspect sacrificiel de l'Eucharistie et nous rappelant cette dimension constitutive de notre baptême. Le sacerdoce exprime de manière précieuse ce que le Christ fait encore aujourd'hui. Nous ne faisons pas seulement que de nous rappeler. Nous recevons la présence réelle, substantielle et subsistante du Christ dans l'Eucharistie. Aussi, Seigneur, par ce don de l'Esprit Saint dans lequel tu nous as consacrés, donne-nous toujours d'être pour nos frères ce rappel de ta présence, ce service de ta présence, pour que nous puissions en fin de compte pouvoir dire comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Seigneur, aujourd'hui, donne-nous dans cette prière, nourrie de ta présence, de pouvoir avec toi adorer ce mystère accompli d'un Dieu qui se fait nourriture pour que nous devenions des dieux.